Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire. Ronald Opus n'est pas un homme très attirant. Désœuvré, désabusé, fâché avec les femmes, le succès et même avec sa famille, cet ancien chauffeur factotum n'a plus la pêche et l'envie de vivre le fuit à mesure que s'installe une foutue dépression qu'il n'a même pas la force de soigner.
À t'en rêver, j'ai gâché mes 20 berges, la gamberge a fait de moi un pauvre homme de plus. Même si je voulais brûler un cierge à Saint-Antoine, au patron des perdus, je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus.
Nous sommes en 1994. Blur chante à tue-tête et les tours d'habitation des environs de Londres se multiplient, entassant dans des appartements exigus et trop chauffés tout ce qui peut y loger, familles en surpopulation, migrants indiens et jamaïcains, célibataires endurcis, danseuses seins nus de chez Raymond's Cabaret. Un environnement qui n'améliore guère le moral de celui pour qui la vie a autant de valeur qu'un après-shampoing pour un chauve. L'après-midi s'étire, Margaret Thatcher parle à la télé, on mange un dernier sandwich margarine concombre et la décision tombe. Ronald Opus saute du 10e étage de l'immeuble, décidé à se donner la mort. Ni lettre d'adieu, ni tenue apprêtée, Ronald ne prend même pas soin d'hésiter. Il enjambe le garde-corps et le voilà dans le vide. En passant devant la 9e fenêtre, alors qu'il est dans une verticale à forte accélération, voilà qu'une balle tirée à l'horizontale de l'intérieur d'un autre appartement le frappe mortellement à la tête. Oui, leur rencontre est fatale. Ronald Opus décède entre ciel et terre avant que son corps déjà inerte ne finisse tristement sur le bitume fraîchement goudronné de la ville de Croydon. Mourir n'était pas la fin. Il y aura donc fallu y ajouter... J'ai pas les mots. La police, habituée de ce genre de suicide, ne voit a priori pas de raison d'enquêter sur ce fait divers ordinaire, avant qu'un fonctionnaire ne pose distraitement un œil sur la tempe de Ronald et n'y distingue la cavité créée par une balle de plutôt gros calibre. On se tire rarement une balle dans la tête avant de se jeter par la fenêtre, ou alors il faut avoir très envie de mourir et en même temps un fort instinct de survie. Le suicide devient instantanément un crime présumé. Le commissaire, dépêché sur place, se permet de soulever son casque d'habitude inamovible pour se gratter vivement la tête. « This is a once-in-a-lifetime situation », lâche ce vieux limier, en refermant la porte de l'ambulance en route vers la morgue. L'enquête du médecin légiste conclut d'abord à un homicide, car Ronald n'était déjà plus en vie lorsqu'il aurait atteint le sol. C'est donc la balle, et non la chute, qui a causé sa mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Le 9e étage de la tour voisine livre son secret, et le trou dans la fenêtre, visible de l'extérieur, mène les enquêteurs vers l'appartement d'un couple de retraités dont les disputes et les cris ne sont pas passés inaperçus dans le voisinage. la balle provenait d'un fusil de chasse tenu par un vieil homme en colère contre sa femme. Curieusement, le nom de ce couple malheureusement marié est Opus, comme celui de Ronald. Un nom courant qui n'attire pas l'attention des enquêteurs dans un premier temps, jusqu'aux détails qui suivent. Chaque jour, Monsieur Opus menaçait sa femme de la tuer lors de disputes restées fameuses, mais l'arme était habituellement déchargée. Ce jour-là, pendant qu'ils se disputaient violemment, il a pointé l'arme vers elle et appuyé sur la détente sans intention réelle de tirer. Enfin, la routine, quoi. Un homme qui a besoin d'un symbole phallique pour imposer sa domination. Le sort, puis l'orange dans une tragicomédie autour de différents domestiques sur une chemise mal repassée ou le choix d'une chaîne de télé. Pourtant, à l'évidence et à la surprise générale, ce jour-là, le fusil a tiré. La balle a traversé la fenêtre et c'est à ce moment précis que Ronald Opus, en chute libre, passait devant et a été tué net. Les enquêteurs qui n'ont pas même pris soin de révéler le nom de la victime sont tentés d'arrêter ce vieux grincheux d'Opus, 82 ans. Mais au cours de l'examen de l'arme, un détail étrange les frappe. Quelqu'un y avait chargé des cartouches peu de temps avant le drame, ce qui avait parfaitement échappé au mari en situation a priori, donc d'homicide involontaire. Les voisins, décidément bavards, révèlent que le fils du couple est un certain Ronald Opus. Le casque de notre Bobby fait alors un bond et sa moustache se dresse en ordre de bataille. Le suicidaire est le fils du couple Opus. Il a récemment quitté la maison familiale après une dispute autour de problèmes d'argent. Et les choses se compliquent. En colère contre sa mère pour des raisons financières et dans un geste de vengeance, leur fils a été vu en train de charger l'arme approximativement 6 semaines avant l'accident fatidique. L'enquête démontre donc qu'il avait chargé le fusil, espérant que son père tuerait sa mère pendant une dispute et serait arrêté pour meurtre. Bien en vie, sa mère décide de ne plus pleurer un fils qui avait ainsi conspiré pour sa mort. Son père se retrouve meurtrier de son fils, lequel meurt d'une balle d'un fusil qu'il avait lui-même chargé, commettant à la fois son propre suicide au moment même où il atteint son but, mettre son père en prison. La mère ne verra donc plus son mari que derrière les barreaux, puisqu'il aura tué son fils en pensant ne pas la tuer elle. Apparemment, ce vieillard visait mal de près, mais bien de loin, si l'on en croit sa performance. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut parler d'une famille qui va mal et qui, pour ce qu'il en reste, a besoin d'aide. La conclusion du médecin légiste est la suivante.
Ronald Opus est mort d'un homicide. Cependant, il est l'auteur involontaire de son propre meurtre. On peut donc dire que c'est un suicide déguisé en homicide.
J'ai envie de vous laisser là sur cette énigmatique. Qui a tué directement? Qui indirectement? Un suicide peut-il être un meurtre? Ou peut-on accuser de meurtre celui qui tue une personne qui était déjà en train de se suicider? Peut-on considérer qu'un accusé est coupable d'avoir ôté quelques secondes de vie à quelqu'un qui chutait de toute façon de 10 étages vers une mort certaine? Il faut ajouter que quelques secondes de la vie d'un suicidaire qui avait pour finalité de tuer sa mère, c'est pas grand-chose, non? Mais je vous dois la vérité. Cette histoire est entièrement fictive. Et c'est cela qui en fait une histoire truculente. S'il existe de par le monde un ou des Ronald Opus, je souhaite qu'il se porte bien et une longue et heureuse vie, si possible, sans anxiolytiques et à l'écart des fenêtres et des fusils. Bien sûr, quelque chose en vous s'écrit en ce moment. Mais comment ai-je pu croire une seconde qu'un tel imbroglio pouvait avoir une quelconque vraisemblance? Mais que devient France Culture? Et puis quoi encore? Guillaume Erner va-t-il nous annoncer demain matin à 7h que la Terre est plate? L'histoire a été inventée en 1987 par le docteur Donald G. Harper, un médecin légiste américain, alors président de l'Académie américaine des sciences médico-légales, lors de l'ouverture d'un banquet. Harper voulait illustrer la distinction entre suicide, homicide et accident lors d'une conférence sur les complexités juridiques des enquêtes médico-légales. En sortant d'un banquet arrosé de gin, on s'enthousiasme et d'une histoire captivante, d'un paradigme de criminologie, on fait vite un fait divers fulminant, une fake news fumante destinée à enflammer l'imaginaire qui, comme chacun sait, adore croire aux histoires qu'il se raconte. En chemin, l'histoire de Ronald Opus est vite devenue un virus, transmis de bouche à oreille. Elle a ensuite circulé dans les médias et sur Internet comme une légende urbaine, souvent racontée comme un véritable cas extraordinaire. Si Ronald Opus a laissé quelque chose dans son invisible non-existence, c'est cette curieuse limite entre réalité et fiction, sur laquelle nous sommes bien obligés de nous interroger avant que notre monde ne rebascule dans le mythe et la doxa qui l'ont vu naître. Si le monde a cru que Ronald Opus était mort d'une balle dans la tête en sautant du 10e étage, c'est que quelque chose en nous veut croire et attend peut-être que se produise l'invraisemblable. Sommes-nous armés pour la post-vérité ? Devons-nous nous armer de scepticisme ou nous laisser couler dans des récits qui nous emmèneront bientôt hors de la réalité, dans l'univers déroutant des pures croyances ? Quand une histoire vraie est à ce point truculente, elle est probablement fausse. Les podcasts de cette émission sont écoutables pour l'éternité sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. La prise de son impeccable est de Jean-Guilain Meige. La réalisation virtuose est celle de Colin Gruel. La chargée de programme charmante est Aurélie Marseille. Et le mixage très professionnel de Dalia. Bravo à Théo Wiesmann et que votre semaine soit aussi une histoire truculente.